La France bouge, c'est jusqu'à 14h avec vous Raphaël Duchemin et c'est l'heure de découvrir la solution d'Elisabeth Assayag.
Avec un jeu pour comprendre les successions, parce qu'on a tous entendu les nombreuses histoires de successions qui se trouvent bloquées, notamment lorsqu'il y a des conflits entre les héritiers. Elisabeth, votre solution, c'est Maka 7 Famille et c'est un jeu.
Oui, Maka 7, M-A-K-A 7.
Comme le 7 Famille.
Le 7 Famille. Et c'est l'histoire d'un notaire qui vit à Nantes avec ses enfants. Il a inventé ce jeu, Maka 7 Famille. Un jeu de plateau que l'on voit là en ce moment en direct sur Europe1.fr si vous nous suivez. Ce jeu tient dans une boîte. Les joueurs peuvent y participer dès l'âge de 8 ans. Et la trame du jeu, elle est très proche de ce que l'on peut connaître dans la vraie vie. Hein. Chaque joueur se trouve confronté à des situations auxquelles il devra faire face tout au long du parcours. Les cartes sont disposées sur le plateau. Et selon la case sur laquelle tombe le joueur, eh bien, il doit piocher dans le paquet notaire, dans le paquet testament ou dans le paquet donation, ainsi préserver ou non son héritage. Bonjour Vincent Chauveau.
Bonjour à vous.
Vous avez créé Maka 7 Famille. Alors je l'ai dit, vous êtes notaire. Qu'est-ce qui vous a poussé à créer ce jeu? C'est lié aux histoires de vie de vos nombreux clients?
En fait, c'est rendre accessible un peu notre matière. En fait, c'est à force de donner des réponses à de nombreuses questions qui sont assez récurrentes, je me suis dit, mais finalement, au cours d'un rendez-vous, c'est peut-être la sixième heure au sujet d'un testament sur une famille recomposée. J'ai dit, ça mériterait un jeu, quoi. Peut-être par lassitude de mon métier, de me dire, mais comment on pourrait le transformer pour s'amuser?
Et transformer votre métier, votre quotidien aussi.
Bah, ce que je suis content de la réussite, c'est que je vois que les enfants jouent. Là, j'ai reçu un message sur Messenger ce matin et le papa me dit il me faudrait plus de billets parce que mes gamins n'arrêtent pas de jouer. Moi j'ai prévu pour une partie d'une heure, pas plus. Il y en a qui jouent un après-midi entier, vous êtes tous, ils sont fous ces gens. Mais voilà, c'est un peu ça la réussite, c'est d'avoir réussi à faire adopter ce jeu par les enfants. Parce que c'est malgré tout un jeu d'adulte dans l'approche.
L'idée est adulte.
L'idée d'adulte, mais je l'ai écrit avec mes enfants parce que je me suis dit, c'est des collègues à vous, journalistes, qui me disent si un enfant comprend ce que vous dites, tout le monde peut le comprendre. Donc
c'est
je me suis dit qu'on allait écrire ça. Et donc chaque carte, je les ai testées sur mes enfants et ils rigolaient. Donc c'était pareil gagné.
Succession, tiens.
Succession, c'est pas les plus heureux. Parce en fait, on commence le jeu par
hérité. Donation,
on peut se refaire.
Ouais. Une villa sur mer à Théoule-sur-Mer. Valeur donnée 100 000 euros, valeur vendue 300 000.
Alors vous dites des euros, en fait, c'est pas des euros, c'est des macassettes parce que c'est universel. Je me suis inspiré aussi du Monopoly de la bonne paye, c'est qu'il n'y a pas d'unité monétaire, c'est universel. Parce que j'ai une commande au Québec, en Allemagne, en Suisse et même au Maroc. Donc vous voyez bien qu'il n'y a pas de symbole à l'euro. Et donc voilà, donation, c'est qu'on reçoit des biens par donation et puis au cours du jeu, il y a des cases pour les revendre, pour se reconstituer. Parce que vous allez vite voir, et mes enfants m'ont dit ça, mais en fait, quand on hérite, on perd tout. Je dis, oui, on peut tout perdre.
Parce que c'est ça, vous voulez. Il y a un enjeu pédagogique dans votre jeu.
Alors, sincèrement, l'enjeu, il s'est révélé au fil de l'histoire, mais moi, je n'ai pas fait ça pour être prof sur l'héritage. J'ai fait ça pour m'amuser.
Mais les héritages, quand même, c'est des successions, ce sont des sujets graves, avec des fonds graves, souvent. Et là, vous nous montrez que c'est fait. Il y a des droits, mais il y a aussi des devoirs quand on hérite.
En fait,
des obligations.
C'est ça, en fait. Mes enfants m'ont dit, ils ont 9-10 ans, ils disent, mais en fait, il y a tout ça à payer, papa. Je dis, oui, il y a tout ça à payer. En fait, c'est comme la bonne paye, mais sur l'héritage, quoi. Il y a un message.
Sauf que par exemple, là moi j'ai tiré une carte succession, on me dit aucun impôt n'est à payer, vos parents ont réglé leur succession par donation partage de leur vivant.
Ouais, message, là, on envoie des messages aux parents.
Et que comprennent les enfants à travers ça, une carte comme celle-ci?
Mais qu'ils comprennent, ma fille m'a dit, papa tu feras tout pour qu'on n'ait rien à payer. Enfin, ils ont la notion aussi de l'argent, de ce qu'on a dans la poche et ce qu'on doit dépenser. Avec une carte comme ça, ils comprennent avant tout qu'il faut anticiper. Mais sincèrement, un enfant, ce qu'il aime dans ce jeu, c'est les billets. C'est de manipuler des billets comme on monopolie la bonne paye.
Nous aussi,
et de gagner la partie, parce que vous avez des cases où tout peut se renverser à 6 cases. Et en fait, il y a toute la mécanique du jeu qu'on retrouve. L'héritage est presque un prétexte pour jouer. C'est drôle, c'est quand même dramatique. On a tous perdu quelqu'un dans notre entourage, mais de tourner la situation en quelque chose de beaucoup plus léger. Voilà. Peut-être aborder ce sujet-là de façon légère.
Notre coach, Riyad.
Je trouve ça très marrant, ça me fait rigoler. Mais je me demande, vous n'avez pas peur que ça incite les enfants à vouloir tuer leurs parents?
Je pense qu'ils n'ont pas besoin du jeu pour en avoir l'idée. D'ailleurs, je n'ai pas prévu cette carte-là, c'est-à-dire quand on tue ses parents, on n'hérite pas de ses parents.
Il y a quand même la case fatale, mais c'est tout ton héritage va à la cagnotte.
Ouais.
Alors, c'est quoi à quel moment?
Alors ça, c'est une mécanique de jeu, tout simplement. Parce que dans la cagnotte, on met les factures et en fait, au cours de la partie, cagnotte monte. Et quand vous touchez la carte cagnotte, bah, là, vous vous refaites complètement. Et donc, en fait, voilà, j'ai utilisé les techniques de jeu classiques, des jeux très classiques.
Mais vous dites que c'est traduit, enfin, ça peut être transposé dans tous les pays, mais les histoires de succession et d'héritage ne sont pas les mêmes lois selon les pays.
Alors, j'ai pas fait référence aux mots techniques du notariat, ni au code civil, ni au démembrement, à l'usufruit, ni à la propriété. Voilà, je peux utiliser des gros mots. J'ai tout sauf utiliser ces mots-là. Il y a 80 pays francophones où il y a le notariat, comme en France, et c'est déjà beaucoup. Et l'héritage est un sujet universel, quel que soit le pays, que ce soit aux États-Unis, en Angleterre ou en France, finalement. On espère tous hériter un petit peu de quelque chose de ses parents.
Et alors, vous êtes distribué où, là, actuellement ?
Alors, moi, j'étais en test de vente, là, à l'automne. Alors, j'utilise des termes que je viens de découvrir. Donc, j'étais dans la grande distribution, dans quelques systèmes U, dans quelques Leclerc.
Du côté de Nantes, dans la région de Nantes.
J'étais dans le numéro 3 des ventes des jeux de société dans les magasins test. Et aujourd'hui, j'attends le rendez-vous de Système U. Là, ils m'ont écrit vendredi. Et il y a Cartamundi aussi, un grand éditeur de jeux.
Et puis vous serez au mois de février
au Festival du Jeu,
ouais. Dans le sud-est de la France.
À Cannes, exactement. C'est un gros festival que je découvre. Et vous êtes en train de changer un petit peu de métier finalement. Comment ?
Vous êtes en train de changer un petit peu.
J'ai plusieurs métiers. Celui-ci, il est dans le prolongement de mon métier. Mais pour vous dire, c'est assez fabuleux. Je le vis avec mes enfants. Je les embarque parce que c'est bien beau.
C'est partie de l'aventure.
Ben ouais, parce que mon fils, quand je lui donnais la boîte, il dit c'est pas vrai, papa, t'es allé au bout du délire. Et j'ai dit pourquoi pas.
Le délire, il est là.
Le délire, il est là. Il s'appelle Macassette Famille. Maca, M-A-K-A, 7, évidemment, comme le jeu des 7 familles.
Non. Par rapport surtout
à ça permet
ouais,
de...
mais c'est tout sauf un jeu de 7 familles.
Mais sauf que ça permet de retenir ma cassette un peu voulu, famille. Ouais. Hein.
Moi, c'était la référence à l'avare de Molière au film de Louis de Funès.
La fameuse ma cassette.
Voilà.
Merci beaucoup, Vincent Chauveau, d'être venu aujourd'hui sur Europe 1. Il est midi 58.
Europe 1.
Et on va rester ensemble. Si on tordait le cou, tiens, au Blue Monday, ce jour censé être le plus déprimant de l'année, n'est en fait qu'une invention, mais il s'enracine dans les esprits. Alors on a décidé de s'arrêter sur la question pour vous aider, car il existe en France des moyens de lutter contre la déprime. Ce sera dans quelques minutes notre dossier du jour. A tout de suite.
Aux côtés des chefs d'entreprise et de leurs équipes, AXA Prévention vous présente La France Bouge.
Europe 1, midi 14h, La France Bouge. Raphaël Duchemin.
Bienvenue dans La France Bouge sur Europe 1 si vous nous rejoignez. Nous sommes lundi et ce lundi 20 janvier est censé être le Blue Monday, c'est-à-dire le lundi le plus déprimant de l'année. Sauf que derrière cette appellation se cache en fait une opération de communication. On va vous expliquer pourquoi. Pour autant, en janvier, entre le manque de luminosité et le froid, les maladies hivernales, c'est vrai que nous sommes nombreux à aller un petit peu moins bien. Alors on a choisi de vous aider aujourd'hui. Bonjour Karine Chevreul.
Bonjour.
Merci d'être avec nous. Vous êtes professeur de santé publique à l'Université de Paris et vous dirigez l'équipe INSERV-ESSEV qui a développé Stop Blues. Stop Blues, c'est une appli pour prévenir le mal-être et la dépression. Et je crois que c'est en 2013, en fait, que vous avez commencé à vous dire qu'il fallait détecter ce qu'on pourrait appeler les signes avant-coureurs. Comment est-ce que vous est venue justement l'idée ?
On était entre plusieurs spécialistes, hein, des psychiatres, des professeurs de santé publique. Et on s'est dit, mais mince, en fait, le vrai souci, c'est que les gens ne vont pas consulter ou ne vont pas en parler. Ils vont rester tout seuls avec leur mal, leur blues, leur déprime. Et ce qu'on sait également, c'est que plus on va se faire prendre en charge tard, et plus, en fait, ça va s'enquister, comme on dit. Donc, ça va devenir de la déprime, on va passer à la dépression légère, moyenne, sévère. Et on s'est dit, la meilleure façon... c'est qu'on donne aux gens un outil pour se dire « mais mince, est-ce que je présente des signes ou pas ? Quels sont ces signes ?» Et une fois que je puisse me diagnostiquer avec même des quiz pour dire « oh là là, mais est-ce que
oui,
vraiment j'ai un signe ?»
ce matin,
alors,
effectivement.
Alors, vous me
j'ai
direz
essayé,
plus tard.
Oui, je vous dirai.
Avec l'idée de se dire « on peut se tester, savoir comment on va, et puis si jamais on ne va pas très bien, qu'est-ce qu'on pourrait faire ?»
Oui, alors moi c'est ça qui m'a surprise. J'ai essayé et je me suis aperçue que effectivement il y avait des endroits où j'allais un petit peu moins bien et je me suis dit mais quand on reçoit ça par exemple et qu'on est imaginons en dépression sévère, ça s'affiche sous les yeux sur un écran. Est-ce que c'est pas un peu dangereux aussi?
Alors globalement on pense que c'est jamais dangereux de faire sortir les gens du déni. Parce qu'il y a toujours cette histoire, non, je ne suis pas un faible, je vais me battre, moi je ne suis pas un déprimé, tout ça. Donc on pense que non, ce n'est pas dangereux. Mais qu'avec ça, en fait, si jamais vous créez un compte, on va vous donner des conseils. On va vous dire, là quand même, il faut aller en parler à quelqu'un.
Donc vous tenez les gens aussi par la main, vous ne les laissez pas seuls avec le quiz et avec la prévention, vous faites aussi
de l'aide, finalement.
Oui, alors, on est bien d'accord que c'est du conseil sur ce que vous pourriez faire, et c'est, ça ne se substitue pas du tout à un outil thérapeutique ou à une consultation chez un médecin généraliste. Mais on dit aux gens, là, ça va pas très bien, faut faire quelque chose. Et vous pourriez faire ça, ça, ça ou ça, mais on leur laisse la main.
Alors c'est vrai que si on en parle, c'est parce que c'est ce fameux Blue Monday. Elisabeth, c'est quoi exactement ?
Alors ça a été baptisé le Blue Monday, ou le lundi du blues, hein, le lundi de la déprime. C'est un jour qui a été théorisé en 2005 déjà par un psychologue anglais de Cardiff qui a élaboré une formule mathématique basée sur plusieurs critères, sur le climat, c'est vrai, il ne fait pas très très beau en janvier, sur les dettes de la personne, sur son salaire mensuel, sur le temps qui a été écoulé depuis Noël, sur le niveau de motivation de la personne et son besoin d'action, son besoin d'agir dans sa vie. Le problème, c'est que cette formule ne repose sur aucune base scientifique. En revanche, elle repose sur une opération marketing qui a été très bien orchestrée par une agence de voyage anglaise aussi, Sky Travel, qui avait sollicité ce psychologue en question pour qu'il en fasse la promotion, hein, la promotion du Blue Monday, partez, allez en vacances, c'est le moment ou jamais, contre une petite rémunération. C'est ce qu'avait démontré à l'époque, en 2006, une enquête du Guardian.
Alors justement, revenons à notre appli Stop Blues. Comment est-ce que vous avez réussi à référencer les séquences ? Parce que j'ai vu qu'il y avait plusieurs questions qui étaient posées sur plusieurs types de choses finalement.
Vous voulez dire les séquences des quiz ?
Pour le quiz, par exemple.
Alors, on n'a pas inventé ces séquences. À l'origine, en fait, ce sont des questionnaires qui ont été validés scientifiquement dans des études pour pouvoir faire des détections de seuil ou pour pouvoir faire des approximations de l'état de santé des gens.
Qu'est-ce qu'on peut détecter une fois qu'on est sur l'appli ?
Alors, ce qu'on peut surtout faire, c'est sortir du déni, comme je le dis, c'est extrêmement important, se dire c'est que ça arrive à tout le monde, et voir si effectivement on aurait plutôt un trouble anxieux, un trouble dépressif, c'est tout. Je ne vous dis pas avec l'application, vous êtes dépressif, faut faire ça, je dis, oh, vous présentez des signes, allez voir quelqu'un et parlez-en.
Donc on détecte ces signes, on réalise en fait qu'on est soit en état anxieux, soit en état dépressif, soit que finalement on va bien.
Oui, exactement. Mais globalement, on réalise qu'on a besoin de faire quelque chose, et ce besoin de faire quelque chose, c'est souvent d'aller parler. Et une fois qu'on a réalisé, le plus important, c'est de se dire « Ah, je vais aller cliquer sur des solutions », et là, on va savoir toutes les choses qu'on peut faire pour soi-même. Une partie pour soi-même, et une partie en allant consulter, effectivement. Mais pas forcément.
Riyad, notre coach.
Ouais, je voulais savoir, elle a été utilisée combien de fois, l'application ?
Alors, l'application, c'est aussi un site web. Donc là, on sait qu'on a 152 000 visites jusque-là de notre site web, et un téléchargement entre 7 et 10 000 de l'application.
L'appli est sortie en 2018, hein, c'est
oui.
ça ?
Alors, sachant qu'au départ, elle n'était pas tout à fait parfaite, mais maintenant qu'elle est très belle.
Et alors, on est dans un pays dépressif ou pas ?
On est dans un pays, bien sûr, non, mais on est dans un pays dépressif parce qu'on a peu de marques pour le savoir, quoi. Mais on sait qu'on consomme beaucoup d'antidépresseurs, peut-être pas au bon moment, pas assez, et on sait qu'on a un taux de suicide élevé. Donc oui, on est dans un pays dépressif, mais comme dans beaucoup de pays d'Europe.
Ce qui est intéressant aussi, c'est que à partir de cet outil, vous êtes en train de développer d'autres choses, notamment des outils spécifiques pour les agriculteurs avec la MSA.
Oui. L'idée, c'est de se dire, le premier, on a eu un financement, donc on a fait population tout venant, donc plutôt les adultes tout venant. On s'est rendu compte que c'était surtout des urbains et qu'il y avait des spécificités au monde agricole. Donc la mutualité sociale agricole s'est engagée auprès de nous pour faire un outil qui soit adapté pour leur public. Et puis on a eu un financement aussi pour les adolescents, parce que si on parle des raisons du mal-être pour que les gens se reconnaissent, ce ne sont pas du tout les mêmes, ce ne sont pas les mêmes solutions. Et puis on est en train de voir pour avoir un financement, pour développer un outil assez différent qui soit plus sur santé mentale et travail, puisque c'est quand même un problème d'actualité aujourd'hui.
On reste ensemble et on continue à parler de ce Blue Monday aujourd'hui sur Europe 1.
Il est 13h18.
Europe 1.
Et justement, on va essayer de lutter contre le burn-out grâce à un escape game. Vous allez voir que c'est possible, c'est tout de suite sur Europe 1.
Le Blue Monday est censé être la journée la plus déprimante de l'année. C'est surtout l'occasion pour la France Bouge de proposer des solutions pour lutter contre la dépression et le mal-être. Alors si vous souhaitez réagir, appelez-nous 3921 ou écrivez-nous via Twitter hashtag Europe 1 Raphaël.
Et oui, vous savez, c'est le verre à moitié vide ou le verre à moitié plein. Nous, on est toujours positif ici à la France Bouge. Donc on vous propose toujours des solutions. Et aujourd'hui, vous savez que les escape games marchent bien, très bien même. Pourquoi ne pas les utiliser pour soigner justement des patients? Bonjour David Labrosse.
Bonjour.
Merci d'être avec nous. Vous êtes le fondateur de Tricky, ça s'écrit T-R-I-C-K-Y, et vous avez développé un escape room santé. L'idée justement, c'est de faire de la prévention pour éviter les troubles dépressifs et le développement du burn-out, c'est ça le fondement ?
Exactement, en fait, on a beaucoup de similarités en fait, avec Karine, puisque moi j'ai fait ma thèse sur l'unité 12-19 du professeur Tsurio, qui gère la plus grosse cohorte d'étudiants, et notamment la santé mentale. Et le sujet, c'était créer un outil pour faciliter l'accès à la prévention pour les étudiants. Et donc, on a pu réfléchir à différents outils. J'ai suggéré effectivement cette solution qui est basée sur l'escape game, dans laquelle on intègre une méthodologie qui nous permet de mettre des messages de prévention. Exactement.
Donc vous, c'était la gamification, hein, c'est ça de la santé. Vous vous êtes dit que c'était peut-être un bon moyen d'aller chercher un public.
Oui, tout à fait. Le problème de la prévention, globalement, c'est qu'elle est consommée par ceux qui en ont pas le plus besoin, c'est exactement ce qui a été dit juste avant. Et l'enjeu, c'est finalement comment adresser de la prévention à un public en difficulté, précaire, qui n'est pas dans une priorisation de la prévention. Un outil gamifié, un outil en fait comme...
Ludique.
Ludique, comme la plus grande partie des grandes entreprises vendent leurs solutions, quelles qu'elles soient d'ailleurs, alimentaires ou autres, utilisent des stratégies de gamification. Et donc l'idée, c'était finalement de transposer ces méthodologies-là à la santé, et on s'est inspiré de ce jeu.
Donc vous créez Tricky en 2017.
Pour ma thèse, tout à fait.
Et qu'est-ce qui se passe après? Comment est-ce que vous concevez cette pièce qu'est-ce qu'on y fait? On entre dans une pièce, on est confronté à quoi exactement à l'intérieur?
En fait, pendant cette année, en 2017, sur cette thèse sur la gamification santé, l'idée c'était créer une méthodologie qui était basée sur comment je m'approprie l'espace, comment je vais y mettre une scénographie, une scénarisation, comment je vais y inclure mes sujets de prévention, comment je les structure, comment je les enchaîne et comment je vais lier tout ça avec de la gamification. L'enjeu, c'était également d'y associer une notion d'évaluation, puisque la problématique de la prévention actuelle, c'est aussi de ne pas toujours être en capacité de mesurer les actions. Et donc là, on a créé une méthodologie qui nous permet de mesurer précisément ce qui se passe dans cet escape room pour savoir si j'améliore ou je diminue, parce qu'on peut avoir des effets délétères en prévention, assez classiquement, sur l'amélioration des connaissances.
Donc qu'est-ce qui se passe dans la pièce, dans l'escape room? J'y entre seul, j'y entre à plusieurs?
Alors on entre en groupe, c'est une expérience qui est humaine, pas digitale, donc c'est vraiment très classiquement un escape game. On va retrouver une approche séquentielle, donc on va passer le plus souvent d'un symptôme à l'autre, qui va être inclus dans un élément de scénographie, par exemple dans le trouble dépressif chez l'étudiant. Au sein d'un chevet, on va pouvoir y mettre la notion de sommeil, par exemple, qui est un des symptômes du trouble dépressif. Et ce sommeil, on va lui associer une histoire, qui est celle de Thomas. Et pour pouvoir ouvrir ce chevet, il va y avoir des choses à faire. Globalement, on associe tout un tas de notions, de perspectives, d'assemblage de niveaux, en fait. Oui.
Donc, ça signifie qu'une fois qu'on est dans la pièce, on va devoir appuyer sur des boutons qui correspondent, par exemple, à des émotions?
Ça peut être des boutons, ça peut être des canaux, c'est classique à ouvrir. Ça peut être trouver des textes, associer des idées. Donc, les logiques de gamification sont vraiment celles d'un escape game. Ça, on ne change pas. On sait que ça fonctionne. L'idée, c'est pas de tout réinventer. La subtilité, c'était d'y mettre de la bonne façon la prévention à l'intérieur.
Que dit notre coach, Riyad Boulanoir?
Moi, je trouve ça toujours super de mettre de la prévention dans du ludique. Mais j'ai une question, est-ce qu'on s'amuse à votre jeu?
C'est la première question qu'on pose à nos participants. En fait, ce qu'on croit, nous, c'est que s'il n'y a pas de satisfaction, il n'y a pas de mémorisation. C'est un ancrage émotionnel qu'on essaye de générer chez nos participants. Et l'idée, c'est que lorsque on souhaite aller bien, on a une référence à cette pathologie pour justement la déstigmatiser, à une expérience de jeu qui était ludique et positive. Et donc, on obtient des scores de satisfaction.
D'accord. Excellent. Et au niveau des résultats, ça marche?
Alors, ce qui est assez bluffant, c'est dans une population, si je prends les étudiants, parce que c'était là où on a fait passer presque 2000 personnes aujourd'hui, ce qu'on voit, c'est que la pathologie mentale et la dépression touche un grand nombre de personnes. Exactement. Et lorsque vous êtes passé 100 étudiants en semaine, vous savez que vous en allez avoir peut-être 10, 15, 20 qui vont avoir un trouble dépressif léger, ou plus ou moins d'ailleurs, pour certains. Et ce qui est intéressant, c'est de les voir reconsulter par la suite. L'intérêt, c'est que ces sessions d'escape game sont toujours suivies d'un focus group qui va durer une heure avec un professionnel de santé. Et c'est là où on verra construire, travailler sur les croyances, les représentations. Et comme le disait Karine, sur et après, où je consulte, comment je consulte, pourquoi je consulte. Et si ce n'est pas moi, est-ce que je peux être aussi un vecteur de prévention pour mon entourage ?
Elisabeth, vous êtes allée faire un petit tour, je crois, sur les réseaux sociaux. On en parle beaucoup, hein, de ce fameux Blue Monday.
Ah, mais oui, ça fait partie des, comme on dit, des trend topics sur Twitter, hein, hashtag Blue Monday. Alors, que ce soit des anonymes ou des marques, hein, chacun surfe sur ce Blue Monday, même si ce Blue Monday, en réalité, là, il n'existe pas parce qu'il fait très beau, en tout cas en France. Le ciel est bleu à peu près partout, hein, n'est-ce pas, Céline ?
À peu près.
Hein. À peu près. Donc, voilà. Donc, vous avez, par exemple, l'enseigne Interflora sur Twitter qui, elle, fait des tas de compliments à chacun et chacune d'entre nous. Vous êtes merveilleux, vous êtes beau, vous êtes unique, séduisant, parfaite, divine, éclatante, hashtag Blue Monday. Sixte France, l'agence de location de voitures, qui montre une photo d'une boîte de vitamine C orange aux couleurs de la marque, avec écrit « Nous faisons également le mot d'absence, hashtag Blue Monday, sous-entendu, louez une voiture et partez, évadez-vous. » Des photos de chats par milliers, parce qu'on sait que leur ronronnement nous apaise. Vous avez même le château de Chambord qui écrit « Pas de Blue Monday aujourd'hui pour le domaine de Chambord, bon lundi à tous. »
Oui, bon lundi, à l'écoute de Europe 1 et de la France qui bouge. Il est 13h27.
Europe 1.
Et on a toujours dit que la musique adoucissait les mœurs, et si c'était le moyen justement d'aborder l'anxiété pour éviter la prise de médicaments. A tout de suite.
Aux côtés des chefs d'entreprise et de leurs équipes, AXA Prévention vous présente La France bouge. Et dans La France bouge cet après-midi, on vous donne des clés, des solutions pour vous sentir mieux, lutter contre la dépression avec nos invités. D'ailleurs, si vous avez des questions pour eux, écrivez-nous via Twitter, hashtag Europe 1, ou alors appelez-nous au 3921, Raphaël.
Et figurez-vous, Céline, que la musique peut avoir un effet bénéfique sur les personnes atteintes d'anxiété. Bonjour Stéphane Guettin.
Bonjour Raphaël.
On a décidé de vous accueillir en musique, du coup, c'est assez logique, puisque... vous montrez avec Music Care que justement la musique peut aider, elle aide même, notamment dans le traitement de la douleur, le traitement de l'anxiété. Comment est-ce que vous avez découvert que ça pouvait fonctionner ?
Ah bah c'est par l'expérience personnelle, en tant qu'animateur en fait depuis mon plus jeune âge auprès des enfants en difficulté, je me suis toujours orienté vers la musique pour permettre de jouer et de travailler sur les troubles du comportement. Et petit à petit, donc j'ai fait des études spécifiques.
Pour une formation vraiment... en musicothérapie, c'est ça, à Montpellier ?
Exactement. Donc j'ai fait 3 ans de musicothérapie, plus un doctorat en psychologie clinique pour valider un statut de chercheur et mettre en place les premières études cliniques françaises qui objectivent l'impact de la musique dans la santé.
Alors pendant que vous faisiez vos études, vous avez aussi travaillé en prison avec des mineurs qui étaient en détention. Et là, vous avez fait des albums avec eux, des albums de rap.
Exactement. Alors, c'est complètement différent du projet Musicaire, mais c'est vrai que la musicothérapie aujourd'hui peut être divisée en deux parties. J'allais dire une première technique qui est la musicothérapie active. On va pratiquer, jouer de la musique avec les personnes à aider, ou sinon des musicothérapies réceptives, donc basées sur de l'écoute musicale. Et c'est vrai que dans ma carrière professionnelle en tant que musicothérapeute, j'ai eu la chance de travailler avec les deux techniques.
Oui, parce qu'en troisième année, vous avez fait un stage à l'hôpital et en faisant écouter justement de la musique aux patients dans une pièce avec des tempos différents, je crois, vous étiez en capacité d'évaluer à la fois la douleur et l'anxiété et l'avant et l'après.
Oui, exactement. Alors, on a eu différentes méthodes d'évaluation. Aujourd'hui, on est les auteurs de plus d'une centaine de publications avec des critères d'évaluation très différents. Effectivement, les premières études qui ont été faites dans le traitement de la douleur, on a utilisé une échelle visuelle analogique de la douleur où on demandait au patient d'évaluer son niveau de douleur entre 0 et 10 avant la séance et après la séance. Dans d'autres services, comme en réanimation, où je travaille aussi beaucoup, on prend comme critère d'évaluation les paramètres hémodynamiques et physiologiques. Donc d'autres études se sont intéressées aux paramètres vitaux comme les fréquences cardiaques, respiratoires, les pressions artérielles. On utilise aussi aujourd'hui des techniques d'imagerie cérébrale qui vont nous permettre aussi de voir comment le cerveau fonctionne en musique.
Qu'est-ce qui se passe justement quand la musique est là ?
Eh ben, c'est un vrai feu d'artifice dans le cerveau. C'est pas comme le langage où on a une aire cérébrale qui est vraiment spécifique au langage. La musique va faire intervenir l'ensemble du cerveau sur toutes les zones et va permettre de stimuler des neurotransmetteurs, des antidouleurs naturels,
l'endorphine,
comme les endorphines ou la dopamine, et agir directement sur le vécu douloureux du patient et permettre d'arriver à une baisse des consommations médicamenteuses jusqu'à 70%.
70%.
Voilà, ça c'est les résultats de la dernière étude qu'on a réalisée avec l'hôpital américain durant une coronarographie, donc un geste de chirurgie cardiaque, qui va permettre, donc il y avait un groupe contrôle qui n'avait pas de musique, l'autre groupe qui avait la musique, et pour arriver au même état de sédation, il aura fallu 3 mg de benzodiazépine dans le groupe sans musique, versus 1 seul mg dans le groupe accompagné, associé à la musique. Donc on travaille vraiment sur l'association du médicament et de la musique pour permettre une meilleure prise en charge globale du patient.
Riyad, notre coach.
Ah bah moi je suis complètement convaincu, moi-même depuis très longtemps, enfin on voit bien, la musique ça vous donne la pêche, ça peut aussi vous rendre triste, on sent bien que ça agit sur toutes les émotions, je trouve ça super de pouvoir le mesurer, le rendre scientifique, voilà. Alors on peut soigner la douleur, l'anxiété, qu'est-ce qu'on peut soigner d'autre?
Beaucoup de choses, les troubles du comportement, et la fonction première de la musique, c'est pas de l'amusement ou du divertissement comme aujourd'hui, mais c'est vraiment le lien social. La musique rapproche les gens. Et je pense qu'avant tout, le patient est isolé à l'hôpital, donc la musique va agir sur le facteur physiologique, comme je vous le disais tout à l'heure, de façon très naturelle sur les paramètres vitaux, mais aussi au niveau social pour créer la relation d'écoute. Le premier traitement de la douleur est l'écoute du patient. Ce n'est pas donner un médicament, mais c'est savoir comment le patient vit avec cette douleur. Et la musique va créer un lien social entre le patient et le soignant, permettant aussi au patient de verbaliser, d'exprimer ses émotions.
Vous avez un tout nouveau site et vous travaillez alors avec des grands musiciens qui ont eu envie de collaborer.
Oui, j'ai cette chance. Effectivement, Musicaire, c'est de la musique, mais c'est de la science. Donc c'est vrai qu'on a aujourd'hui la chance d'avoir un énorme conseil scientifique avec les plus grands chercheurs dans le domaine. Mais aussi, mes plus gros scientifiques, c'est les musiciens, les artistes avec qui je travaille. C'est ce que j'appelle chez nous, chez Musicaire, on les appelle nos compositeurs de soins. Puisque effectivement, ces musiciens composent dans une intention de soigner, de soulager le patient.
On ne compose pas de la même manière quand on a cette intention-là ?
Ah ben non, les plus grands compositeurs qu'on connaît, Mozart, Beethoven, notamment dans la musique classique, étaient payés, ils étaient à l'époque, c'était des mécènes, donc ils composaient pour une occasion, un événement spécifique. Aujourd'hui, et là c'est triste à dire, mais depuis que la musique est devenue un outil de consommation, les musiciens, dans 90% du temps, compose pour passer à la radio et pour avoir un intérêt, j'allais dire, aussi économique. Mes compositeurs avec Musicaire sont vraiment là pour composer de façon très naturelle et originale pour soigner la personne et pour aller parler directement, j'allais dire, au corps et à l'esprit du patient.
Alors combien d'hôpitaux aujourd'hui utilisent cette technique ?
Alors aujourd'hui, on est à plus de 300 hôpitaux. Donc c'est très variable, il y a des hôpitaux qui l'ont développé dans un service, le centre antidouleur, la réa, la neurologie, et on a d'autres hôpitaux où ils ont développé Musicaire dans toutes les chambres du patient, notamment au CHT, le centre hospitalier territorial de Nouméa, où la plus grosse installation compte 563 chambres, excusez-moi, installées de Musicaire. Donc c'est de la musique pour tous les patients, à tous les moments, au moment du coucher, quand le patient n'arrive pas à dormir, et on va remplacer cette habitude de donner un médicament pour laisser dormir par on va écouter de la musique. Et on s'aperçoit que dans 90% du temps, ça marche et on arrive à éviter la case médicament.
C'est vrai que la musique, c'est important. Il y a aussi un autre facteur qui est important. Elisabeth, on en parlait justement en préparant l'émission, c'est la lumière.
Oui, la lumière. Hein. D'ailleurs, ce manque de lumière peut provoquer des dépressions. Et d'ailleurs, 5 à 10% des dépressions sont des dépressions saisonnières liées à ce manque de lumière. Cette lumière qui nous aide à recharger la mélatonine, l'hormone du sommeil sécrétée par notre corps à la tombée de la nuit et qui favorise notre endormissement. Et si ce fonctionnement se dérègle, eh bien on a du mal à s'endormir, on cumule progressivement de la fatigue et c'est cette baisse de régime qui affecte notre énergie et notre morale. Le plus souvent, les premiers symptômes de cette déprime saisonnière apparaissent à l'automne et disparaissent spontanément au printemps.
On reste ensemble et on continue à écouter de la musique et à trouver des solutions pour vous aider à aller mieux aujourd'hui sur Europe 1. Il est 13h37.
Europe 1.
Et on vous attend bien sûr à 3921 et Twitter, hashtag Europe 1, la France bouge et vous aide. À tout de suite.
Cet après-midi, dans La France bouge, à l'occasion du Blue Monday, on vous donne les solutions françaises pour lutter contre la dépression et le mal-être, Raphaël, et on vous les donne avec nos invités.
Évidemment, Karine Chevreul, professeure de santé publique à l'Université de Paris, directrice de l'équipe InServeSev qui a développé Stop Blues, c'est une appli de prévention pour le mal-être et pour la dépression. David Labrosse, fondateur de Tricky, entreprise qui a développé l'Escape Room Santé pour faire de la prévention sur le trouble dépressif, notamment le burn-out. Et Stéphane Guettin, docteur en psychologie, fondateur de Music Care, traitement non médicamenteux qui traite et qui évalue la douleur et l'anxiété pour la musique, par la musique. Notre coach Seriad Boulanoir, cofondateur du compte Nickel et fondateur de la méthode Boulanoir. Évidemment, Elisabeth Assayag est à mes côtés. Je crois que vous avez trouvé, Elisabeth, une appli qui fait du bien à celles et ceux qui sont seuls.
Oui,
aussi.
Parce que la dépression saisonnière, c'est aussi lié ça peut être aussi lié à la solitude. Il y a la lumière, mais il y a aussi la solitude. Et il y a une appli qui s'appelle Paris en compagnie. C'est une appli qui vous permet de tenir compagnie à des personnes pour aller faire des courses, aller chez le médecin, s'occuper des papiers administratifs ou tout simplement se promener parce que avec l'âge, on a plus tendance peut-être à avoir des moments de déprime, des moments de dépression saisonnière. Cette application veut lutter contre cet isolement des personnes avancées dans l'âge en les mettant en relation avec des Parisiens qui peut donner quelques heures de leur temps.
Est-ce qu'on a des questions, Céline,
oui,
sur Twitter ?
Hashtag Europe 1 Marc, comment inciter un proche que l'on suspecte de déprime d'utiliser vos solutions ?
Ah, bonne question. Karine, est-ce qu'on peut suggérer Stop Blues à quelqu'un qu'on trouverait en petite forme ?
Bien sûr, et d'ailleurs, quand on est un proche, on peut télécharger Stop Blues, aller sur Stop Blues. Il y a une rubrique « Que faire quand je suis un proche ?» pour avoir des conseils sur comment en parler, y compris des conseils quand on a des proches qui vont très 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 mal. On a cette idée de « il ne faut pas leur parler parce que ça pourrait les aider à passer à l'acte dramatique ». Et pas du tout, il faut leur parler. Et dedans, on dit « il faut leur parler pour justement les pousser à réaliser que non, ce n'est pas grave et qu'on les aime quand même et qu'il n'y a pas de honte et que ça arrive à tout le monde ».
Donc il faut en parler, il faut aller, il faut leur suggérer, leur donner l'adresse, voire les aider à télécharger.
Oui, parce que l'avantage quand même d'une application, c'est que c'est intime, c'est anonyme. On est tout seul pour regarder si on a des signes, on est tout seul pour regarder quelles sont les solutions, on est tout seul pour réaliser que on n'est pas tout seul dans cette situation-là et que c'est pas grave tant qu'on prend ça en charge assez tôt.
Quand est-ce qu'on fait la démarche d'aller dans un escape room santé ? Comment est-ce qu'on arrive jusqu'à vous ?
Alors effectivement, nous, on a une approche qui est en deux temps, puisqu'on travaille d'abord avec des universités ou des entreprises qui nous sollicitent pour leurs salariés, pour leurs étudiants. Ce n'est pas une approche directe, effectivement, pour la question de Marc. Il ne peut pas venir chez nous directement faire une session avec ses amis ou ses proches. Et donc, c'est plutôt une directive, une organisation... d'une entreprise ou d'une université ou d'un centre de santé travail, par exemple.
Oui, vous dites entreprise, ça signifie qu'aujourd'hui, vous êtes en train de développer effectivement plusieurs possibilités, plusieurs offres pour pouvoir répondre à des besoins bien spécifiques. L'étudiant, le salarié n'ont pas forcément les mêmes manifestations ?
Tout à fait, pas les mêmes pathologies non plus. Quand on parle de burn-out, on est en santé travail. On a deux grosses verticales dans la société. On a une verticale santé publique, où on va travailler sur l'obésité. On sort un scénario sur l'obésité avec la clinique Princesse à Pau en mars, fin du mois de janvier d'ailleurs. On travaille sur le trouble dépressif, etc. Côté santé-travail, on va travailler avec plutôt les risques psychosociaux, les troubles musculo-squelettiques, les TMS. Et donc là, on a une verticale plutôt salariés ou décideurs pour les amener à comprendre la vulnérabilité des salariés et leur donner un temps de prévention, d'échange, de casser l'image de la pathologie et les amener à changer leur comportement.
Stéphane Guettin, la musicothérapie, finalement, on peut se l'appliquer tous les jours ?
Alors, il faut bien faire attention avec le terme musicothérapie, qui est un terme réservé aux professionnels de santé aujourd'hui. Donc, il y a une Fédération française de musicothérapie. Musicare, on va plus appeler ça une intervention musicale à visée thérapeutique. Bien sûr, bon, l'objectif est de soigner la personne par la musique. Mais c'est quelque chose qui ne s'applique pas tout seul aujourd'hui. Il faut qu'il y ait une prescription médicale. Donc, on travaille Musicare avec 300 hôpitaux, comme on disait tout à l'heure.
Oui.
Et à la suite de l'hospitalisation du patient, grâce à un code prescripteur, le patient peut continuer chez lui de façon autonome. Mais il faut que la première séance soit initiée par un personnel soignant formé.
Riyad ?
Bah écoutez, moi j'allais bien en venant jusqu'au studio et je me demande si je suis pas en train de trouver une petite dépression.
Téléchargez ce
musique. Vous voulez un petit peu de musique, Riyad?
Avec grand plaisir.
Ça nous aiderait. Merci à tous les trois d'être venus sur Europe 1 pour nous aider à passer ce Blue Monday. Finalement, ça s'est plutôt bien passé. Regardez la musique, il suffisait de demander.
Ce n'est pas un cocktail, le Blue Monday.
Non, ce n'est pas un cocktail. Je sais que vous aimeriez bien.
Bon, on va reprendre la pêche.
Mais
avec
le bleu, c'est quand même notre couleur préférée. Merci à Nicolas pour ce petit morceau de musique.
Il est 13h44.
Europe 1.
Et on va rester ensemble, on va en écouter de la musique dans quelques minutes et on va aussi découvrir la maison Vitry Frères parce qu'elle a su traverser les âges et c'est l'entreprise qui va bien. A tout de suite.
Europe 1, la France bouge. Raphaël Duchemin.
Et c'est le Raphaël de découvrir l'entreprise qui va bien.
Et cette entreprise, c'est Vitry Frères. Bonjour Frédéric de Grandcourt.
Bonjour.
Merci d'être avec nous. Vous êtes le PDG de cette maison qui est orfèvre en beauté, moi j'adore cette expression, depuis officiellement 1795, probablement bien avant. Ce sont des moines hein, au départ qui ont créé une fabrique de sabres et d'épées, puis d'instruments de chirurgie à Nogent. Et puis à l'époque de la Révolution, eh bien, l'abbaye est devenue un atelier qui est devenu en 1795, cette maison Vitry Frères. Voilà. C'est comme ça que tout commence.
Voilà, elle a 1000 ans en fait. Si on regarde, on a des fonts baptismaux qui sont une vieille abbaye qu'on a quittée il y a 12 ans de cela pour l'Ouest. On a fait la France qui bouge. Ben oui, on est passé d'Est en Ouest. Et tout ça pour maintenir la qualité et la compétitivité en passant du travail manuel à un travail sur robot. Et avec 15 ouvriers spécialisés, on fait une production une fois et demie à deux fois supérieure dans nos anciens ateliers de Nogent.
Voilà. Alors, on parlait des outils de chirurgie.
Oui.
Vous avez aujourd'hui plus vraiment cette particularité-là. Vous êtes plutôt tourné vers l'aspect cosmétique. On vous trouve dans les pharmacies. Les gens doivent se dire, mais Vitry, je connais. Les pinces à épiler, notamment.
Alors c'est un instrument de chirurgie, on a d'autres... Mais en fait, en 1950, on n'avait plus de marché dans la chirurgie. On sortait de la Seconde Guerre mondiale, on a perdu tous nos clients. Et l'idée de mon prédécesseur, ça a été de lancer...
Le petit-fils de Jules Tinet, hein,
voilà,
c'est ça ?
Qui était un grand penseur, qui était de Thiers, et qui avait racheté d'ailleurs Vitry, mais qui était déjà une très grande entreprise. Et on a eu énormément d'Oscars au 19e siècle dans la chirurgie. Et on a su se reconvertir en 1950 avec créer...
Des accessoires professionnels
voilà,
que vous vendez
manicure,
en pharmacie.
Pédicure. Alors,
les
pas coupons, de la coutellerie, on est
ciseaux.
Les ciseaux, les tire-comédons, les cure-oreilles, les pinces à ongles, les coupons. Et tout ça avec un monopole pour rester dans le milieu hospitalier. On a voulu choisir un lieu spécifique et de qualité qu'est la pharmacie. Voilà.
Alors, depuis une vingtaine d'années, on va dire, la concurrence s'est développée. Comment est-ce que vous avez justement fait face à cette concurrence ?
Ben déjà, la plupart de mes confrères qui étaient simplement fabricants ont pratiquement fermé leurs portes en ce qui concerne le bassin nogentais, ce qui est très regrettable. Ça a été le même cas en Allemagne et ailleurs. Et parce que la concurrence asiatique arrive avec une qualité qui n'a rien à voir, mais...
Mais ce qui vous a aidé, vous, justement, c'est que vous étiez à la fois fabricant et distributeur.
Voilà, d'une part, et d'autre part, qu'on a robotisé pour faire en sorte de réduire nos coûts industriels, pour pouvoir combattre, parce qu'il n'y a pas de taxes pour les produits asiatiques qui sont importés pratiquement. Alors que nous, quand on vend en Chine, on a 70% d'imposition. Alors, le libre-échange, je pense qu'il a ses limites.
voilà. Aujourd'hui, vous avez amené avec vous quelques-uns des produits que vous fabriquez, on les voit sur europe1.fr. 90% des produits sont français, finis ici. Tout est testé, un par un.
Alors, 50% de nos produits sont les accessoires.
Oui.
Aujourd'hui, en l'espace d'une dizaine d'années, on a développé des produits consommables satellites, c'est-à-dire pour le soin des ongles, pour le soin des cils et des sourcils, et pour le soin des pieds. On a aussi innové dans d'autres matières, la céramique, le cristal de bohème, etc., dans le domaine de l'accessoire. Et en ce qui concerne nos produits, c'est-à-dire pinces à épiler, ciseaux à ongles, En effet, ils sont fabriqués dans notre usine avec des ouvriers qui sont payés non pas à l'heure, mais à la pièce, c'est-à-dire en fonction du rendement et en ayant un fini main. Et en revanche, tout un usinage au micron près sur des machines à commande numérique, ce qui me permet d'avoir, on travaille en 2-8 et on peut passer en 3-8 si on a des commandes spécifiques. Et on est dans plus de 40 pays dans le monde aujourd'hui, avec deux petites filiales, l'une au Canada, l'autre aux États-Unis. Et on a nos propres forces de vente dans toute l'Union européenne.
Riyad Boulanoir, notre coach.
Ben moi, je trouve ça fort déjà d'exister depuis 2 siècles. Mais ce que j'entends, c'est que c'est une entreprise qui sait se réinventer et qui a su s'industrialiser, comme quoi l'industrialisation n'est pas forcément destructrice d'emplois. Vous en êtes l'exemple. Au contraire, ça vous a permis de résister et d'optimiser beaucoup. Bravo à vous.
Ben merci, en tout cas, merci à tout le monde. Parce que c'est une équipe, c'est les ouvriers, c'est les commerciaux, c'est le marketing. Il faut innover sans arrêt.
Et vous arrivez dans l'aventure dans les années 80 ? Pourquoi ?
Fin des années 80 quand même, ouais, en 89.
Pourquoi ? Qu'est-ce qui vous donne envie ?
On vient me chercher chez L'Oréal, chez Vichy, La Roche-Posay. Et on me dit, ben voilà, on est leader, mais on est attaqué de partout. Voilà, on vous donne... Est-ce que vous voulez prendre la direction commerciale, marketing et export ? Et insouciant, hein, quand on n'a pas la trentaine, on est insouciant, j'ai dit oui. Et c'était pour un parcours de 2 ans, et ça fait 30 ans que j'y suis. Voilà.
Ça fait 30 ans, et puis vous avez aussi racheté de belles marques, de très belles marques, des marques historiques. Je pense à cette marque de mascara, notamment.
Oui, alors Longcil, c'était une marque de maquillage 1950, c'est le premier mascara des stars.
Audrey Hepburn, notamment.
Voilà, où on l'utilise en mettant de l'eau sur un petit cake ou à la limite de la salive, parce que c'est naturel, totalement naturel.
Bon. C'est mieux.
Et de là, on a fait une marque pour la pharmacie, c'est-à-dire la beauté par le soin. C'est vraiment notre slogan, aussi bien dans l'accessoire que dans les produits cosmétiques qui sont satellitaires. Parce qu'on ne vend pas un produit de beauté, mais on vend un produit qui s'harmonise avec son lieu de vente. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, on est leader dans le soin des ongles, numéro 1 dans les soins réparateurs, et notamment, pas uniquement en France, en Belgique, au Canada, et référencé dans les plus grandes chaînes de drugstore en Amérique du Nord.
La suite, c'est quoi ?
La suite, c'est les jeunes générations qui poussent derrière,
ouais,
et qui développent des pays comme l'Espagne, l'Italie, la Scandinavie, et on fait appel à plus d'une quinzaine de jeunes VIE qui sont des volontaires à l'export et qui vont déployer nos couleurs et notre savoir-faire à l'étranger. Et voilà, je vous remercie.
Et nous, on vous remercie d'être venu nous raconter une partie de l'histoire de Vitry Frères. C'est l'entreprise qui va bien aujourd'hui sur Europe 1. Merci à Riyad Boulanoir qui était notre coach. Elisabeth et Céline, on se donne rendez-vous
demain
midi sur Europe 1.